Alors, chers amis, rebonjour, c'est Adrien. On se retrouve dans le chapitre 2. C'est quoi connaître du vocabulaire? Donc, on va vraiment s'attacher au fait que apprendre du vocabulaire, en fait, vous allez le voir, c'est savoir faire 5 choses en même temps. Alors, première chose, je remonte un peu la page. Petit souci technique, je vous prie de m'en excuser. Je vais y arriver. Voilà, alors connaître du vocabulaire en anglais, comme je vous le disais, c'est faire 5 choses en même temps. Donc, j'allais dire regardez bien, mais plutôt écoutez bien si vous me permettez. Répétez et prononcez correctement. Alors, pour ça, il y a vraiment un site qui est génial et je n'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez sur le Cambridge Dictionary. Vous mettez le mot en anglais, vous avez la définition. Alors, le seul petit bémol, c'est que tout est en anglais, effectivement. Donc, si votre niveau de vocabulaire ne vous permet pas encore d'être à l'aise avec l'utilisation d'un dictionnaire, même s'il est en ligne, attractif, interactif, bien fait, tout en anglais, là, évidemment, vous pouvez vous tourner vers un dictionnaire, par exemple, franco-anglais, comme le Robert and Collins. Robert and Collins. Donc c'est Collins, c'est Collins. Et là, je le vois dans ma bibliothèque. Il est une figure en bonne position. Personnellement, j'ai le format de poche et le grand format. Je vous le recommande. De toute façon, si vous avez une question à ce propos ou sur n'importe quoi, du moment où ça concerne l'apprentissage de l'anglais, vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail. Donc allez sur le site du Cambridge Dictionary et vous verrez. Dictionary, hein, c'est accentuation sur la première syllabe. Dictionary, ok? Et c'est Cambridge, voilà. Donc vous allez dessus, vous écrivez le mot, et là vous pouvez écouter la prononciation, mais pas avec les voix à la Google, vous savez, ces voix métalliques où ça fait dictionary. Non, là c'est vraiment la bonne accentuation avec une belle distinction à chaque fois entre l'accent américain et l'accent britannique. Donc ça, c'est la première chose à savoir, savoir répéter et prononcer le mot correctement. OK? Donc 5 choses à savoir faire pour apprendre du vocabulaire. Répéter et prononcer. Deuxièmement, savoir l'écrire et l'épeler lettre par lettre. Voilà. Troisièmement, on va voir pourquoi c'est intéressant plus tard. Savoir ce qu'il veut dire. Alors pas forcément en français, je m'explique. Ça peut être une image, ça peut être une sensation. Une photo qui vous permettra d'utiliser le mot ou l'expression au bon moment dans une conversation, parce que parfois ça se fait de façon intuitive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous comprenez en anglais, mais vous avez du mal à l'exprimer en français. Voyez? Donc c'est pour ça aussi qu'apprendre du vocabulaire, on n'est pas là pour être des traducteurs professionnels. Donc sachez que si vous savez l'employer, bah déjà c'est une très bonne chose. Voilà. Ensuite, savoir reconnaître le mot, donc c'est la quatrième chose, savoir reconnaître le mot quand vous l'entendez ou quand vous le lisez. Encore une fois, si vous le comprenez intuitivement, ça suffit, hein, d'accord? Parce que petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise pour passer de l'anglais au français, du français à l'anglais, mais encore une fois, notre but, c'est pas d'être à l'aise dans la traduction, c'est d'être à l'aise pour communiquer en anglais. Pour ça que je vous dis ça. Et ensuite, évidemment, savoir l'utiliser correctement dans une phrase. Donc, quand vous apprenez un mot, il faut absolument maîtriser ces 5 éléments. Prononcer, écrire, comprendre, reconnaître et utiliser. Je répète, prononcer le mot, savoir écrire le mot, donc son orthographe, savoir le comprendre, donc quand vous l'entendez, par exemple, il faut pouvoir le reconnaître, savoir le reconnaître, mais là, le reconnaître à l'écrit, et évidemment. Le top du top, savoir l'utiliser, puisque ce qu'on veut, nous, c'est être capable d'être des maîtres, littéralement, hein, de l'anglais, savoir communiquer en anglais. Et s'il vous le manque, malheureusement, c'est là où c'est intéressant, en fait, un seul de ces 5 éléments, vous ne connaissez pas vraiment le vocabulaire. Et vous ne le mémoriserez pas à long terme, surtout, vous risquez donc de perdre votre temps, pardon, à essayer de le retenir. C'est pour ça que j'insiste tout le temps. Et que j'ai mis des centaines de fichiers audio. Là, il y a Samuel qui est dans l'équipe, qui m'a envoyé un message hier soir et qui m'a dit, Adrien, est-ce que tu sais combien il y a de fichiers audio dans GPCA? Je lui dis, ben, des centaines, j'imagine. Et là, il m'a sorti le nombre de 943, puisqu'il a mis ça dans un espèce de petit logiciel qui compte. Donc là, vous avez quasiment un millier, pardon, de fichiers audio. Et vraiment, utilisez-les, puisque ce sont des fichiers audio enregistrés par un native speaker. Donc, c'est vraiment important et intéressant pour vous d'apprendre la prononciation en même temps que vous apprenez le vocabulaire. D'accord? Vraiment. C'est une vérité essentielle pour progresser en anglais. Alors, je vous ai mis une petite illustration. Donc là, ça va être dur de vous la montrer dans un audio, mais c'est l'illustration du mot travel. OK? Accentuation sur la première syllabe. Travel. Donc, qui est le voyage en anglais. Et permettez-moi cette digression parce qu'elle me semble vraiment très intéressante. Travel, ça vient du mot, évidemment, c'est la même étymologie que le mot travail en français, d'accord? Et pourquoi on emploie le mot travail qui vient lui-même du latin trépalium, qui était, je vous le rappelle, un instrument de torture. Donc pourquoi on a cette connotation si négative à la fois en français et en anglais, même si le sens en anglais a changé, il signifie voyage et non plus travail? Tout simplement parce que le transport et voyager il y a 2, 3, 4, 5 siècles et plus, c'était particulièrement pénible. Donc c'était littéralement du travail ou une torture. Et c'est pour ça que le mot travail, en fait, a glissé au niveau du sens et évidemment aussi au niveau de l'orthographe dans la langue anglaise et est devenu travel qui signifie voyage. Donc là, vous voyez, je vous ai mis une illustration du Cambridge Dictionary où vous avez bien la prononciation UK, donc c'est United Kingdom, donc Royaume-Uni, donc c'est la prononciation britannique, et US, vous cliquez sur le bouton pour United States, et évidemment, les États-Unis, vous avez la prononciation du mot en anglais américain. Vous voyez aussi des exemples de phrases en entier, donc ça c'est vraiment très bien, par exemple, I travel to work by train. Je vais au travail en train, etc. Donc, je vous laisse le consulter vous-même. Et voyez, tout ce que vous avez là, c'est vraiment une bonne base pour connaître vraiment le mot travel. Je m'explique. Commencez par apprendre à le prononcer correctement. Écoutez comment il se prononce. On accentue, comme je vous le disais, la première syllabe. Répétez-le plusieurs fois et écrivez-le surtout si vous êtes un visuel comme moi. Donc, travel. T-R-A-V-E-L. T, c'est le T. R, R, c'est le R. E, c'est le A. V, le V. I, ça se prononce comme un I, quasiment comme un I à la française. C'est le E, faites attention. Et L, c'est le L. Donc, vous apprenez son sens. C'est voyage. Et évidemment, le verbe qui va avec, puisque ça s'orthographie en plus de la même façon, donc c'est facile à retenir. To travel, voyager. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller un peu plus loin, sachant qu'on emploie, par exemple, l'expression to travel in a country. Alors, country, accentuation sur la première syllabe. Around, accentuation sur la deuxième syllabe. Around the world. World. OK? Pour dire voyager dans un pays, travel in a country, et to travel around the world, voyager autour du monde. Évidemment, ce n'est pas obligatoire d'apprendre les expressions importantes qui sont rattachées à un mot, surtout au début de votre apprentissage. Ce que je vous invite à faire, et je vous ai mis l'image dans le PDF, encore une fois, là, je ne peux pas la restituer malgré tous mes efforts dans l'audio, mais je vous ai mis une image, et à cette image, vous pouvez associer, en fait, vous pouvez l'associer au mot appris comme dans la photo que je vous donne. Donc, là, vous pouvez associer au mot appris l'image, la photo. Et là, par exemple, vous voyez a plane, vous voyez a phone, donc un avion, un téléphone, a map, une carte, etc., etc. Donc, vous pouvez tout simplement aussi retrouver ce mot et le comprendre dans une phrase simple et utile. Donc, vous voyez, je vous donne tout un ensemble de techniques, hein. Vous pouvez les combiner, en laisser sur le côté, c'est vraiment à vous de voir. Donc, je vous donne cette phrase simple. We can travel in this country because we can speak English. OK? Je répète. We can travel in this country because we can speak English. Nous pouvons voyager dans ce pays parce que, car nous pouvons parler anglais. Faites attention, English, guys. very, 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 very important. Ok, c'est très important. Ça prend toujours une majuscule, que ça soit un nom ou un adjectif. Ok, c'est comme French, français, même chose. Okay. Donc vraiment, s'il vous plaît, vous pouvez vous en souvenir. Sur la chaîne YouTube, vous tapez dans YouTube ou même dans Google, ispeakspoken.com, majuscule en anglais, et là vous tombez sur la vidéo que j'ai faite qui explique quand c'est qu'il faut obligatoirement mettre une majuscule en anglais, ce qui arrive bien plus souvent dans la langue de Shakespeare qu'en français. Donc faites bien attention à ça. Voilà. Attention, et là j'ai mis attention en majuscule, c'est pas pour rien. Connaître du vocabulaire, chers amis, ce n'est pas forcément connaître sa traduction exacte en français. Donc ça, c'est vraiment important d'en tenir compte. Je vous parle dans ce guide d'associer les mots que vous apprenez à des images, par exemple, à des souvenirs, des sensations, même des émotions. Et il n'y a rien de plus fort qu'une émotion pour que le cerveau enregistre à long terme, durablement. Pourquoi? Car apprendre un mot et juste sa traduction exacte en français, ça ne marche pas. Ça demande beaucoup d'énergie, c'est un côté artificiel, clairement, au niveau de la mémoire. C'est exactement ce qu'on vous demande, vous l'aurez noté de manière générale dans le système scolaire. Et pour une majorité d'entre nous, j'ai bien pris soin de dire, pour une majorité d'entre nous, ça n'a pas fonctionné. Ni pour moi, et à mon avis, ni pour vous, sans doute. Donc votre cerveau, il a besoin d'associer les mots entre eux avec une logique ou une émotion. Ne le considérez pas comme une simple machine à enregistrer des connaissances. On dit souvent que le cerveau, c'est un ordinateur, mais ça reste le cerveau d'un être humain, donc il n'a pas qu'un côté mécanique. Envisagez tout simplement votre cerveau comme un organe qui est relié. Alors, ça vous semble cliché, mais vous allez comprendre quand je vous parle d'émotion, relié à votre cœur et à tout le reste de votre corps. Vous le savez bien. Vous mémorisez beaucoup mieux en détail un événement qui vous a touché, comme un mariage par exemple, plutôt qu'une conférence hyper ennuyeuse, surtout si vous la regardez sur Internet, même si au début le sujet paraissait passionnant. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est pas de votre faute, puisque votre cerveau, il fonctionne avec votre cœur. Il a besoin d'émotions, de sensations pour fonctionner et surtout mémoriser efficacement. Alors, traduire et apprendre work égale travail. Ça a fonctionné dans un premier temps. Pour les premiers mots que vous allez apprendre, ça va aller. Votre motivation en plus, elle est intacte et à son maximum. Mais quand vous arrivez à 20 ou 50 mots, que ça soit en un jour évidemment, mais même en quelques jours, votre cerveau, il va vite dire stop. Je refuse de continuer comme ça. Ça ne me plaît pas. Et vous allez perdre de votre enthousiasme ou même perdre votre enthousiasme et peut-être même abandonner. Alors, ça dépend évidemment de la résistance, si je puis dire. Et puis de votre manière d'apprendre de manière générale, mais de toute façon, si malheureusement vous cherchez à apprendre en faisant du par cœur, voilà, hein, c'est le par cœur qu'il faut mettre, s'il fallait retenir qu'une seule chose, qu'une seule expression, c'est le par cœur. Et malheureusement, le par cœur, c'est un peu notre meilleur ennemi pour progresser en anglais. Cependant, évidemment, il va falloir retenir et même retenir de nombreuses choses pour progresser dans la langue de Shakespeare. Mais il faut trouver le bon équilibre entre le par cœur qui est fait de manière intelligente, toujours avec un contexte, une émotion, et d'un autre côté, chers amis, le fait de ne pas faire de l'anglais scolaire. Vous voyez, il faut trouver un bon équilibre. C'est pour ça que je vous donne cinq techniques différentes, testées et approuvées par la maison pour apprendre du vocabulaire dans ce chapitre. Sachez que je ne vous conseillerais jamais de connaître par cœur la traduction en français. Ou tout du moins, pour les mots de base, oui. Mais après, vous allez voir, ça vient petit à petit. À moins évidemment que vous vouliez devenir traducteur. Mais je ne suis pas sûr que ce soit votre objectif si vous êtes ici. Non, notre but, c'est de progresser en anglais en apprenant, évidemment, entre guillemets, je précise, pour ne blesser personne, intelligemment. Je vous donne un exemple. Et là, vous voyez une image en fait où il y a une voiture, porte arrière ouverte, coffre ouvert, et qui littéralement est remplie et même ça déborde de valises. Donc là, en voyant cette image, vous pouvez vous souvenir du mot luggage, luggage. Alors, attention, luggage, accentuation sur la première syllabe, ce qui fait que la deuxième voyelle, elle est dans une syllabe non accentuée, la deuxième voyelle. D'accord? Pardon, la voyelle, le A, d'accord? Donc je répète, je recommence. Luggage, voyez, accentuation sur lug. Ok, la première syllabe. La deuxième syllabe, dans la deuxième syllabe, on a une voyelle qui est le A. Et comme cette voyelle elle est dans une syllabe non accentuée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être littéralement squeezée, si vous me permettrez ce franglais, c'est-à-dire qu'elle va être compressée. Le A va devenir comme un I. Du coup, si je vais doucement, on dit luggage. Luggage, vous voyez le A, c'est un I en fait. Luggage, voilà. Mais ça, c'est pas tout ce que vous avez à savoir sur ce mot. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, parce que vous voulez l'employer correctement sans faire de fausse, se faire de faute, pardon, c'est qu'on ne peut pas dire a luggage. Ça se dit pas a luggage, ça ne se dit pas. On dit a piece of luggage, ok? Puisque luggage, en fait, c'est déjà les bagages. Et vous pouvez dire aussi two pieces of luggage. Deux bagages, a piece of luggage, un bagage, luggage, les bagages. Et on ne dit pas luggages, ok? Ça n'existe pas, ça ne se met jamais au pluriel avec un S. On peut évidemment dire les bagages, luggage, mais on ne dit jamais les bagages, luggages. Ça n'existe pas, d'accord? On laisse toujours au singulier, en fait. Ce qui nous donne, par exemple, you can leave your luggage at the hotel, ok? You can leave your luggage at the hotel. Donc, your luggage, vos bagages. Vous pouvez dire aussi, my luggage is too heavy. Mes bagages sont trop lourds. D'accord? Donc, faites attention parce que même le verbe, il reste au singulier, même si on traduira au pluriel. En français, je répète, my luggage is too heavy. Mes bagages sont trop lourds. Donc attention, même si le mot luggage en anglais il est une exception, sachez que des exceptions de ce type, il y en a beaucoup. Vous prenez les mots comme news, comme advice, les conseils, a piece of advice, un conseil, etc., etc. Ils marchent avec le mode de fonctionnement et ce sont des mots vraiment très courants. Bagage, conseil, nouvelle, etc. Vous voyez, c'est des mots vraiment très courants que vous allez utiliser dans la vie quotidienne. Donc, il faut faire attention. Et quand vous apprenez du vocabulaire, c'est faut beaucoup plus prêter à ce attention, j'allais dire à ce type de détails, mais ce n'est pas ces détails, mais à ces infos qui vont vous permettre ou pas de bien employer les mots. Que d'apprendre, par exemple, toutes les traductions d'un mot en français. Voilà. Il faut faire vraiment attention à ça. Et par extension, en fait, puisque tout est lié évidemment dans une langue, et c'est d'ailleurs ce qui la rend si passionnante, c'est que ça vous permettra de vous améliorer évidemment au niveau vocabulaire, mais aussi au niveau grammaire. Vous voyez, si vous dites my advice pour mes conseils, et bien déjà là, au niveau de la grammaire, au niveau du pluriel, c'est beaucoup mieux. Voilà. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on peut entendre et qui est faux, l'anglais n'est pas une langue facile. Évidemment, la maîtriser, c'est à votre portée, mais notamment au niveau des pluriels, donc au niveau du vocabulaire, il y a des difficultés, même si les mots, vous voyez, luggage, ça ressemble quand même pas mal à une racine française, même si c'est assez facile à retenir pour nous. On pourrait très facilement se tromper au pluriel. Alors, je ne vous parle même pas de la prononciation, évidemment, qui là, on va la voir dans le troisième chapitre. Là, je vous rappelle qu'on est toujours au deuxième chapitre. Mais sachez que l'anglais, donc, n'est pas une langue facile. Ça serait vous mentir que de vous dire le contraire. Et mais évidemment, la maîtriser est à votre portée. Ça demande un peu de rigueur, un peu de méthode, c'est pour ça qu'on est là ensemble, et ça sera plus facile et plus rapide, bien évidemment, si vous utilisez les conseils que je vous donne, ou en tout cas que toutes les recommandations que je vous fais dans ce guide. Donc, chers amis, on continue avec les 100 mots de base pour bien commencer. Donc, je vous avais promis du concret au niveau de la méthode, mais au niveau du vocabulaire lui-même. Ça arrive tout de suite, les mots les plus courants. Combien de mots faut-il connaître? Les 100 mots de base pour bien commencer. On se retrouve tout de suite.